Une matinée dans la tête de nos chiens avec Jacques Pradel et son invité Laurence Bruder-Sergent.
Oui, Laurence Bruder-Sergent, donc, qui a publié ce livre à compte d'auteur. Donc, on mettra évidemment les contacts sur le site internet d'Europe 1, puisque je n'ai pas de nom de maison d'édition à donner à ceux qui nous écoutent. Mais le livre existe bien, je l'ai lu. Il est très réussi parce qu'il est très pratique et il parle des choses vraiment sans circonvolution. Enfin, vous allez droit aux problèmes que rencontrent les gens. Forcément, vous les connaissez bien puisqu'ils viennent vous voir pour essayer de résoudre des situations insensées comme celles qui nous sont d'ailleurs évoquées par un certain nombre d'éditeurs. Annie qui nous appelle de la Sarthe, j'ai un teckel de 5 mois, c'est un vrai kangourou qui m'épuise, il ne fait que des conneries. Elle a dit, je ne sais pas quoi faire. Dès qu'il peut, en plus, il se sauve. Bon, tout n'est pas perdu.
Ça ne fait que commencer, je suis désolée Annie.
Comment ça ne fait que commencer?
Eh bien là, si vous voulez, la période la plus difficile pour les propriétaires, ce sont les deux premières années de la vie du chien.
D'accord.
Parce que tout est à faire.
D'accord.
D'abord, quand il arrive à la maison, l'éduquer à la propreté.
Ouais.
Ensuite, l'éduquer tout court. Là, c'est un teckel, donc famille des chiens de chasse. Donc, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses.
Mmh.
Il a 5 mois, donc il doit beaucoup mordiller. Il doit être un peu chenapant, effectivement.
Ouais.
Donc là, elle a beaucoup de travail à faire. Tenez bon,
c'est
effectivement les deux premières années les plus difficiles.
Bon. Mais peut-être, dans ce que vous avez dit dans un instant, puisqu'on va faire ce qu'on a annoncé tout à l'heure, juste avant la pause, on va parler du choix du chiot. J'ai cru comprendre. On dit ça pour les bébés humains, que tout se passe dans les 3 premières années. Là, vous dites, tout se passe dans les 8 premières semaines, quoi, à peu près. Hein.
Oui, alors selon les auteurs, c'est 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines. Il est vrai que la différence de croissance entre un teckel et un dog allemand est quand même différente.
Ouais.
C'est-à-dire que le dog allemand, il va être adulte à 3 ans, alors que le teckel, c'est beaucoup plus tôt.
Ouais.
Donc, effectivement, chaque chien grandit à son rythme. Par contre, cette phase d'imprégnation intraspécifique et interspécifique, ça y est, c'est placé, les deux mots compliqués, donc sont effectivement dans les 12 premières semaines de la vie du chien.
Alors, intraspécifique, c'est le chien avec les autres chiens.
Voilà, dans une même
espèce. Et interspécifique, c'est lui et les humains.
Lui et les humains, les chats, n'importe
ou
quelle
les
autre
autres,
espèce.
Voilà, d'accord.
Voilà.
D'accord, ouais.
Donc, effectivement, au départ de sa vie, le chiot, c'est une crevette. Hein, il est sourd, il est aveugle, il est handicapé. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, il va se développer.
C'est ça.
Donc, il va prendre conscience de son environnement. Il va prendre conscience qu'il est un chien.
Mm-hmm.
En interagissant avec sa fratrie, avec sa mère ou avec d'autres adultes éducateurs, il va apprendre les codes spécifiques
chien.
À son espèce.
Voilà, le code chien, d'accord.
Voilà. Ouais. Il va construire son éthogramme.
Mm-hmm.
Alors, l'éthogramme, c'est le répertoire des comportements.
D'accord.
Donc il va apprendre que certaines choses sont autorisées et d'autres interdites, que certains comportements sont potentiellement dangereux. Donc il va apprendre à se contrôler. Il va apprendre aussi l'inhibition de la morsure. Donc ça, beaucoup de propriétaires de chiots s'en plaignent parce que le chiot mordit et puis il a des dents bien aiguisées. Donc ça, c'est un phénomène normal. C'est le chiot qui teste tout, qui met tout en gueule. Et puis donc, à partir de la 5e semaine, il va découvrir les autres espèces qui vont devenir espèces amis ou pas. C'est-à-dire qu'un chien et un chat peuvent tout à fait s'entendre, mais comme deux amis. Il n'y a aucun problème à partir du moment où ils ont été tous les deux habitués à vivre ensemble très jeunes.
D'accord. Ils voient des humains aussi. En général, c'est dans un élevage ou dans une famille, quoi, si le chiot est né là. Mais c'est dans un élevage, ils voient beaucoup plus de chiens, évidemment, qu'ils en verraient s'il était né dans une famille.
Alors, malheureusement, ils voient beaucoup de chiens très bien, mais malheureusement, ils ne voient pas forcément beaucoup d'humains. C'est-à-dire que dans certains élevages industriels, pardon, on dit professionnel, mais quand on élève 50 chiens, pour moi, c'est de l'élevage industriel. Donc, effectivement, il va y avoir beaucoup de chiens, mais si l'éleveur est le seul à s'occuper de ses chiots, si par exemple sa femme et ses enfants ne s'en occupent pas, les chiots ne savent pas ce que c'est que des enfants. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme, ou à l'inverse, si c'est une éleveuse qui est célibataire, quand elle va vendre ses chiots à une famille avec enfants, les chiots vont devoir apprendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça que le choix du lieu d'élevage des chiens est vraiment primordial. C'est vrai, comme vous le disiez, la meilleure prévention, c'est de choisir son chien au bon endroit. Donc, pour ne pas se tromper, acheter un chien dans un lieu où il a été élevé, dans un lieu qui ressemble le plus au contexte dans lequel il vivra plus tard.
Alors, légalement, en France, on ne vend pas de chiots qui n'ont pas au moins 8 semaines,
je crois. Pas de moins de 8 semaines.
Voilà. Et donc, vous dites, allez-y, allez sur place, voyez un peu. Mais comment choisir un chiot? Alors, est-ce que c'est vrai qu'un chiot peut révéler le caractère qu'il aura en tant qu'adulte?
Et non. Ah, merci d'évoquer ce sujet. Alors ça, c'est les fameux tests de Campbell. C'est-à-dire, vous en avez entendu parler?
J'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert le nom dans votre livre.
D'accord. Ouais. Alors Campbell avait établi un test qui permettait justement de savoir si le comportement qu'on observe à une période de la vie du chiot était le même ou était plutôt révélateur de son caractère futur. Donc ce test se fait théoriquement à l'âge de... Je crois que c'est 43 jours, quand les chiots ont 43 jours. Ouais. Et on veut voir si plus tard, on veut en fait sélectionner les meilleurs éléments. Voilà. Mais il y a plusieurs choses dont on ne prend pas la mesure. C'est que ça dépend qui fait le test, un homme ou une femme, quelqu'un de calme ou quelqu'un de très nerveux. D'accord. Est-ce que ça se passe dans le lieu où le chiot est né ? Dans ce cas-là, le test n'est pas valable, puisqu'il est dans un environnement oui, sécurisant et rassurant.
Pas là, oui,
voilà. Façon, alors on vous dit, mais écoutez, si le test n'est pas révélateur, faites-le une deuxième fois. Ah. Alors ce n'est plus un test. Ça ne révèle rien du tout.
Vous dites, vous, dans votre livre, le meilleur test, vous mettez accroupi, vous tapez dans vos mains et vous appelez. Voilà. Et voilà, quoi, parce que celui qui viendra, en tout cas, déjà...
Déjà, ça veut dire qu'il n'est pas trop heureux. Voilà. Il aime bien les étrangers, il n'a pas peur. D'accord. Par contre, généralement, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, et moi-même, hein, si je suis comportementaliste, c'est parce que j'ai fait cette erreur-là. Ouais. C'est qu'il y avait un chien au fond de la pièce qui tremblait, qui était tout timide, et je me suis dit, oh, il est trop mignon, je le prends. Oui, mais s'il était là, c'était pas pour rien. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens font, cette erreur-là, de prendre le chiot qui, parce qu'il craque, il le trouve mignon.
Bien sûr, on a envie de le protéger, et puis c'est lui un petit canard, et on va l'aider.
Oui, mais
et
s'il
en fait,
là,
vous dites, s'il est là, c'est parce qu'il peut avoir des phobies, des peurs, des
angoisses.
Voilà,
c'est parce qu'il a été exclu de sa fratrie, ou qu'il s'est exclu tout seul. Ouais. Mais sa mère ne l'a pas ramené dans le groupe. Ouais. Et un individu qui est exclu à l'état sauvage, il ne survit pas.
Oui, à l'état sauvage, mais en tant qu'animal de compagnie.
Eh bien, en tant qu'animal de compagnie, c'est un individu qui va avoir des craintes. Donc, si vous l'avez choisi au fin fond des Pyrénées et que vous habitez aux Champs-Élysées à Paris, ce chien-là n'aura jamais entendu un bus, un métro, des voitures, des mobilettes, tout ce qui fait du bruit.
Donc, vous dites dans vos conseils, vous dites même, choisissez un élevage dans un endroit où les chiots auront entendu des bruits de circulation.
Alors, la majorité des éleveurs sont très soucieux de ça. Ils font vraiment attention à préparer les chiots, de plus en plus de gens le savent. Ouais. Mais disons que si vous voulez mettre toutes les conditions de votre côté, choisissez un lieu d'élevage qui ressemble à votre milieu de vie. Ouais. Donc si vous habitez à la campagne, choisissez un chien où vous voulez. Mais si vous habitez en pleine ville et que vous voulez que votre chien vous suive partout, qu'il aime les enfants, les autres chiens, les chats, qu'il soit sans peur et sans reproche, il faut le choisir effectivement. Moi, dans ces cas-là, je préconise plutôt le particulier qui a fait reproduire sa chienne. Ouais. Les chiots sont élevés dans le salon ou dans la cuisine. Donc, ils ont entendu une machine à laver qui tourne, des enfants qui se disputent, une télévision qui piaille et ils n'ont peur de rien.
Ouais. Alors, on verra tout à l'heure comment préparer l'arrivée d'un chiot à la maison, dans une famille, nombreuse ou pas nombreuse. Mais on va porter une autre question à travers, d'ailleurs, Jean, qui est au téléphone, qui nous appelle de Seine-Maritime, du Havre. Hein. Bonjour, Jean.
Oui, bonjour.
Alors, je vais vous laisser expliquer l'objet de votre question. Allez-y.
En fait, moi, je suis dresseur de chiens. Hein, je dresse les chiens parce que je suis non-voyant, donc je les dresse pour moi-même.
Ouais.
En fait, je ne suis affilié à aucune école, à aucune structure.
Mm-hmm.
Et je voulais apporter mon témoignage sur le fait de, justement, que, bon, j'ai... Pendant longtemps, on a dit que c'était les Golden Retriever, les Labradors et tout le tralala.
Qui étaient les meilleurs chiens pour devenir les chiens guides d'aveugle,
Tout à fait. Déjà, premièrement, moi, j'ai suivi plusieurs stages dans différentes écoles, donc j'ai vu comment ça se passait.
Ouais.
Et puis, en fait, j'ai assimilé le dressage sous une forme de jeu.
Ouais.
Parce que je me suis dit, finalement, autant que le chien a guidé son maître, il prenne plaisir à le faire.
Ouais.
Que ce soit sous la contrainte.
Ouais, ouais.
Et que s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, et puis on prend la canne blanche, et puis on voit autrement.
Alors, attendez, laissez-le aller au bout, parce que. Oui. Et vous avez constaté finalement que même des petits chiens, je vois sur votre fiche, peuvent être éduqués.
Ah, tout à fait. Et ça m'a, en fait, très honnêtement, monsieur, ça m'a coupé le sifflet d'avoir réussi ça, parce que c'était une grande victoire sur moi-même.
Ouais.
Et j'ai réussi. Ouais. Avec un premier chien que j'ai élevé au biberon, à un croisement, en plus.
Ouais.
Et le deuxième, là, parce que bon, le premier chien est très malade, il a le problème de train arrière.
Ouais.
Et là, le deuxième, c'est un mâle qui n'est pas castré, en plus. Un bulldog français que j'ai dressé moi-même.
Mmh.
Et il était dominant.
Ouais.
Parce que bon.
Alors, Jean, excusez-moi, je vais vous poser une question claire, hein, on ne va pas tourner autour du pot, mais ça peut étonner un certain nombre de gens que, non-voyant, aveugle, vous dressiez vous-même le chien. Comment faites-vous?
Comment je fais?
Comment faites-vous? Vous l'emmenez sur un trajet que vous connaissez?
Oui, tout à fait. Ouais. Je l'amène sur un trajet que je connais moi-même, que je n'ai pas besoin de chien.
D'accord.
Et je le confronte dès chiot à 2 mois et demi, 3 mois, quand moi je l'ai à vers 3 mois, à la rue, au bruit des bus. Je lui fais prendre le bus même dans un panier, déjà pour lui habituer au bruit du bus.
D'accord.
Et petit à petit, je l'amène à tout style de, on va dire, de situations possibles et inimaginables.
Oui, mais le rôle de d'un chien guide, c'est par exemple de s'arrêter quand il y a un obstacle ou de... Quelle est la fonction la plus importante pour vous, non-voyant, venant de la fonction de votre chien la plus importante pour vous?
C'est déjà les traversées des rues, c'est tout ça. Parce qu'en fait, le petit chien, lui, ne peut pas... Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ouais. Faut être franc, faut être honnête, faut voir les choses franchement.
Ouais.
Le chien, lui, il s'arrêtera pas comme il y a un obstacle.
Ouais.
Par exemple, le bulldog français, lui, c'est un chien qui est considéré comme un molosse.
Ouais.
Donc lui, au lieu de vous s'arrêter, il va vous faire éviter l'obstacle.
D'accord.
Et moi, je lui apprends à tirer d'un certain sens pour vous faire éviter l'obstacle.
D'accord.
En fait, voilà.
D'accord.
Et voilà quoi. Donc.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre témoignage qui est très intéressant.
Oui.
Je vous propose d'écouter la suite du côté de votre transistor parce qu'il faut qu'on prenne aussi, il y a pas mal d'appels, mais on va continuer 2 secondes. Merci Jean. Hein.
Ah mais de rien, avec plaisir.
On va continuer 2 secondes sur le thème abordé par Jean parce que c'est vrai qu'on dit, et pas uniquement pour les chiens guides par exemple, que le labrador c'est un chien qui est très gentil avec les enfants, donc on va préférer prendre un labrador ou que, je ne sais pas, telle autre espèce de chien est plus adapté à un comportement en ville ou à la campagne. Alors, on se trompe?
Eh bien, au départ, il s'agit bien de chiens d'assistance. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un individu qui soit capable de remplir certaines fonctions.
Oui.
Donc, il a fallu choisir un chien qui soit d'une certaine taille. Un bichon, par exemple, je pense qu'il ne pourrait pas trop aider Jean. Parce que, il peut s'arrêter au passage piéton ou contourner un obstacle, mais s'il a besoin d'être tiré, là, le bichon, il ne pourra pas. Donc, c'est pour ça que certains chiens ont été sélectionnés.
D'accord.
Ensuite, effectivement, le Labrador, le Golden Retriever sont plutôt des chiens d'assistance aux personnes handicapées et le berger allemand plutôt aux personnes non-voyantes.
Ouais.
Et j'ai posé la question à une personne de handichien, pourquoi le berger allemand, vous n'en prenez pas? Et il m'a répondu, eh bien parce que le berger allemand est un chien qui ressemble beaucoup au loup et qui fait peur. Et le chien, c'est aussi un lien social pour la personne handicapée.
Bien sûr, d'accord.
Donc dans la rue, quand une personne en fauteuil roulant, par exemple, se promène avec un labrador ou un golden, les gens s'arrêtent. Oh, il est beau votre chien, on peut le caresser, on peut le toucher, comment il s'appelle? Donc il y a un lien qui se crée.
Voilà.
Quand c'est un berger allemand, les gens hésite un peu plus.
Ouais,
donc, ensuite, par rapport aux capacités intellectuelles, je suis tout à fait d'accord avec vous, que ce soit un grand, un petit, peu importe, ils ont tous certaines capacités, mais ce ne sont pas les mêmes.
Ouais.
En effet, le bulldog fait partie des molossoïdes, il a été classifié comme un molosse et s'en est un.
Ouais.
Donc, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas vraiment faire.
Ouais.
Alors, par rapport au labrador et au golden, ce sont des chiens qu'on a réussi à discipliner de manière un peu plus précise. Et puis, là, on peut vraiment parler d'obéissance parce que ces chiens-là doivent être capables de résister à beaucoup de tentations. Ils doivent être capables, si un ballon traverse la route et qu'ils ont très envie d'y aller, de ne pas y aller.
Mais ça, c'est l'espèce et la race du chien qui détermine quand même un genre de comportement.
C'est pas vraiment la race. Moi, je parle plutôt d'effet de lignée. C'est-à-dire que certaines caractéristiques ont été sélectionnées.
D'accord.
Vous avez des labradors qui n'en ont strictement rien à faire et qui courront après la balle. Et il y en a effectivement qui sont très raisonnables pour faire de l'anthropomorphisme.
D'accord. Alors, tout à l'heure, on reviendra quand même sur le labrador parce que beaucoup de gens choisissent un labrador. Là, c'est plus des chiens d'assistance dans la famille. Parce qu'on dit mais il est formidable et gentil avec les enfants. Vous dites que c'est l'un des 3 chiens, je crois, les 4 morsures chaque année.
Oui.
C'est 30% des morsures, le labrador.
Oui.
Mais bon, mais peut-être qu'il faut, on peut
faire un
peu ce qu'on veut
avec les
statistiques. On va prendre tout de suite un autre auditeur. C'est Olivier qui est en ligne, qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Jacques. Bonjour madame.
Alors, enfin, bonjour. J'ai un facteur au téléphone.
Ah oui, voilà. écoutez, je me suis permis de vous appeler parce que j'ai pensé que cette question était évocable.
Oui,
j'ai pas la prétention de parler au nom de mes 100 000 collègues facteurs de France.
Ouais.
Mais je pense que si vous faites le compte, des morsures, il y en a.
Ouais.
Et moi, je voulais simplement appeler pour faire peut-être un petit témoignage et surtout demander à madame qui semble connaître bien le chien, si elle pouvait nous donner ne serait-ce qu'un embryon de réponse sur l'attitude à tenir vers les chiens. Parce que vous savez, quand vous avez 200, 300, 400, même 500 clients par jour et que vous finissez votre journée avec des chiens qui vous ont plus ou moins agressé, pas forcément en vous mordant, toute la journée, ça devient fatigant. Bon.
Mais vous avez été mordu
mordu plus d'une fois, effectivement, et puis j'ai peut-être peut-être pour réagir sur la morsure qui m'a le plus impressionné depuis ce jour-là, j'ai plus confiance du tout à aucun chien, c'est que je faisais une tournée rurale, je me présentais dans une ferme tous les jours, pendant des mois et des mois, j'ai vu naître un chien, je connaissais très bien sa mère, et il me faisait la fête tous les jours parce que je traversais la cour de ferme.
Ouais.
Et puis au bout de plusieurs mois, un jour, il n'est pas venu et il a attendu que je ne l'ai plus dans mon champ de vision et il m'a attaqué. Donc depuis ce jour-là, j'ai vraiment plus confiance.
Il est venu par derrière ?
Pardon ?
Il est venu par derrière ?
Oui, il a attendu que, en fait, j'ai traversé la cour et ce jour-là, j'ai été étonné qu'il ne vienne pas me faire la fête.
Ouais.
Et quand il est sorti de mon champ de vision, en fait, quand il a attendu que je ne le voyais plus, il est arrivé par l'arrière et m'a mordu la cuisse.
Ah, d'accord.
D'accord.
Alors, Jean, merci en tout cas de merci de ce témoignage. On va laisser parler donc Laurence Bruder-Sergent parce qu'on a 3 minutes là pour répondre à Olivier.
Ok, alors donc, que se passe-t-il dans les cas de morsures sur les postiers ? Le chien est sur son territoire et son rôle de chien, c'est de protéger le territoire. Vous, en tant que postier, vous êtes là pour remplir une mission, mais le chien ne le sait pas. Il ne sait pas que vous venez d'amener un courrier. Mmh. Il voit un intrus qui arrive et tous les jours, il aboie, il menace et il fait partir l'intrus. Mmh. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas que vous avez déposé le courrier et que votre tâche est terminée, que vous partez. Lui, il pense qu'en vous menaçant, en aboyant, il vous a fait partir, donc qu'il est efficace. Donc, tous les jours, sa confiance en lui grandit un peu. Et si, par hasard, mais par contre, autant sa confiance grandit, autant il se dit, mais quel insolent, il revient tous les jours. Donc, tous les jours, il recommence.
Ouais, parce qu'il doit reconnaître l'odeur, puisque vous dites, le chien sélectionne, évidemment, son environnement, notamment par certains de ses sens. Donc, il a la vue, qu'il y avait un uniforme. il a l'odeur du postier, si c'est le même postier qui passe tous les jours. Donc
et surtout, il a appris
par s'habituer.
Oui, mais il a appris que son comportement est efficace. Et vous savez, les chiens fonctionnent par association, au travers des bénéfices ou des déficits de leurs actions.
Mais là, Olivier nous raconte l'histoire d'un chien qu'il a vu naître, qui venait lui faire la fête, qui caressait, et puis brutalement le comportement change. Vous avez une explication, vous ?
Oui.
Ouais.
Alors, ce genre de chiens-là, dans des fermes, sont encore plus gardiens et protecteurs que les chiens de compagnie.
Dans un pavillon.
Voilà. Est-ce qu'il était attaché le reste du temps ? Mais bon, peu importe. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'est pas attaqué de manière frontale. Parce que s'il était venu en face et qu'il avait attaqué le postier, là, on aurait pu se dire, attention, ce chien-là n'est pas normal.
Ah bon.
Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu par derrière.
Ouais.
Donc, quelque part, il l'a fait pour remplir sa tâche de gardien. Mais je ne suis pas certaine que dans sa tête, il était très sûr de lui. Parce que sinon, il l'aurait fait de manière frontale. Voilà.
Ouais.
Donc là, il est venu par derrière. Qu'est-ce que c'était comme type de chien ? Certains sont plus sujets à l'agressivité que d'autres. Certains sont plus gardien que d'autres.
Est-ce que pardonnez-moi parce que je vois le temps qui court, on va avoir les infos, pour que la réponse à Olivier soit complète, le plus complète possible. Est-ce que les maîtres de chiens qui savent que les postiers peuvent être mordus ou simplement même ont peur, et c'est pas normal de faire son métier en ayant peur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté
théoriquement, les propriétaires sont responsables de leurs chiens, donc ils devraient faire en sorte que le postier ne court aucun risque, mais nous sommes bien d'accord, personne ne le fait.
Ouais.
Donc, que peuvent faire les facteurs ? Alors, bon, je comprends, votre métier est vraiment difficile, mais il faudrait essayer de l'amadouer. C'est-à-dire, si possible, faites une première rencontre, vous faites des câlins au chien, vous prenez 10 secondes pour jouer ou pour lui donner à manger.
Alors, moi, je vous arrête. On va continuer, Olivier, on va continuer à vous répondre après les informations, parce que l'heure, c'est l'heure. Les informations n'attendent pas, n'est-ce pas, ma chère Julie ?
Eh ben non, il est 10h. 10h pile sur Europe 1. L'heure du flash, Virginie Salmen.